devenir son leader.
Bonjour et bienvenue sur notre podcast Devenir son leader. Avec 52 épisodes pour changer de vie, notre podcast a pour but de vous donner des méthodes simples et efficaces pour devenir le leader que vous rêvez d'être, devenir son leader. Je suis Nicolas Lubache, orateur et formateur dans l'art de créer des discours et dans le leadership interne. Alors au programme, nous aurons la question des auditeurs et auditrices, une interview de notre leader du jour, Anne-Marie Richier, et puis pour terminer, un retour d'expérience sur une méthode que j'ai testée pendant une semaine. Alors, quel sera le sujet d'aujourd'hui ? L'optimisme. Tout de suite, passons à l'interview du jour avec Marion, 33 ans, kinésithérapeute à Bordeaux, qui nous pose la question suivante. Bonjour Nicolas, on nous bassine constamment de rester optimiste, de voir la vie en rose et tout ira bien. Je pense que la vie est trop difficile pour rester optimiste. Qu'en penses-tu ? Tout d'abord, merci pour ta question, Marion. Voir le verre à moitié vide ou voir le verre à moitié plein ? Une constante saute aux yeux lorsque l'on regarde le verre objectivement, c'est que le verre est exactement rempli à moitié. Pouvons-nous déduire que ce sont nos jugements qui vont interférer dans le plus ou le moins des choses? Alors je l'affirme haut et fort, oui. La vie que nous observons tous les jours repose sur le jugement plutôt que sur les faits. Il est pauvre parce qu'il est mal habillé, les riches sont tous des pourris et j'en passe des meilleurs. Tous ces jugements ne reposent sur aucun fait scientifique. Pourtant, la perception de ce qui nous entoure dépend seulement de notre capacité à positiver ou à négativer. Chers auditeurs et auditrices, j'aimerais vous poser la question suivante. Quel bénéfice retirez-vous à râler toute la journée? Aucun. Et c'est scientifiquement prouvé. Le fait de broyer du noir entretient un état de pessimisme qui entretient le cercle vicieux de la négativité. Alors, cassez ce cercle vicieux en introduisant petit à petit une vision optimiste des choses pour devenir un cercle vertueux. Cela va vous permettre de voir toutes les opportunités que la vie s'offre à vous. Et c'est avec le verre à moitié plein que nous passons à l'interview du leader du jour et nous accueillons aujourd'hui Anne-Marie Richier de Toulon. Anne-Marie, bonjour.
Bonjour, bonjour Nicolas.
Alors, comment tu vas ?
Eh bien, écoute, très bien, comme très souvent, en fait. Tout va pour le mieux pour moi.
C'est génial. Tu es cofondatrice de The Talks, une entreprise qui réalise des mini-conférences et des formations, dirigeante de Usit, start-up sur les solutions marketing dans le blockchain, dirigeante de Zigzag Marketing, agence de marketing et aussi présidente de l'association de promotion de l'entrepreneuriat féminin.
C'est ça.
Anne-Marie, dis-moi, mais comment arrives-tu à gérer tout cela ?
Eh bien, c'est parfois compliqué. Ça, j'avoue que c'est pas toujours évident. En fait, j'ai commencé par une première structure qui était Zigzag Marketing. Et puis, j'ai eu envie de créer une start-up dans la blockchain. C'est une solution informatique qui me plaisait et qui, pour moi, avait de l'avenir. Et du coup, je me suis associée à d'autres personnes pour créer la blockchain, enfin la start-up. Et puis, petit à petit, j'ai fait des formations pour Usit et puis pour Zigzag Marketing. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plutôt pas mal de créer, plutôt que de faire les formations dans les structures, de créer une structure supplémentaire pour faire des formations qui porteraient toutes ces formations. Et là, je me suis associée à d'autres personnes encore pour le lancer. Finalement, la réussite, elle n'est pas que personnelle, elle est en groupe. Parce que tout seul, on ne peut pas tout faire. Mais en effet, quand on est plusieurs, on y arrive beaucoup mieux. Et autant pour Zigzag, en effet, aujourd'hui, je suis seule à diriger, à gérer l'entreprise. Mais pour toutes les autres entreprises ou associations dans lesquelles je travaille en collaboration avec des partenaires, en fait. des associés. Donc, pour Useit, on est deux associés majoritaires. Pour The Talks, la boîte de formation, nous sommes également deux associés. Et là, depuis peu, on travaille avec une stagiaire, Mathilde, qui est vraiment super, super et qui nous accompagne vraiment très bien. Pour la PEF, l'association de promotion d'entrepreneuriat féminin, là encore, en fait, on est plusieurs à gérer cette association parce que tout seul, ce n'était pas gérable. Donc voilà, disons qu'on va mutualiser, travailler en groupe, c'est ce qui permet le succès, en fait.
Travailler collectivement pour arriver au succès. Oui. C'est un beau projet. Et comment tu en es arrivé à créer autant de projets ?
Alors, il y a quelques années, j'ai quitté Paris pour arriver à Toulon et je n'ai pas trouvé de travail, en fait, à Toulon. Alors moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me plaît depuis que je suis jeune, mais j'ai jamais cru que c'était possible en fait pour moi. Je pensais qu'il fallait de l'argent, mettre de l'argent dans l'entreprise, et puis pendant très longtemps, il fallait mettre au moins 50 000 francs à l'époque, 7 500 euros, et du coup, c'était pas possible. J'étais trop jeune pour avoir cette somme-là de côté, donc voilà. Et puis finalement, il y a quelques années, je suis arrivée à Toulon, j'ai pas trouvé de travail, et j'ai eu la possibilité de créer une première structure sans mettre 7 500 euros à l'époque. Donc du coup, j'ai investi du temps, surtout dans une entreprise, pendant un an. L'entreprise a été un échec parce que je manquais d'argent. En fait, il me fallait de l'argent, je ne générais pas assez de business. Donc, j'ai dû laisser tomber. Et sur le coup, j'ai vécu ça comme un échec. Et quelques années plus tard, en fait, même plutôt quelques mois plus tard, je me suis dit que c'était plutôt à valoriser. Et du coup, j'ai commencé à le valoriser. Et en fait, j'ai trouvé un CDI juste après. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise dans laquelle j'étais pas heureuse du tout. J'évoluais pas, les tâches étaient pas très sympas. Enfin, j'avais vraiment pas. Je trouvais que j'avais pas ma place dans cette structure. Et finalement, j'ai décidé de me lancer en auto-entrepreneur à l'époque comme écrivain public. Donc de faire ça le soir et le week-end, ça m'a plu et ça m'a relancé en fait. Ça a relancé mon envie d'être indépendant. Et du coup après, j'ai arrêté mon auto-entreprise pour me lancer dans Zigzag Marketing, en fait, dans une agence marketing. Et puis voilà. Et petit à petit, j'en suis arrivée à monter d'autres projets parce que du coup, quand on en monte un, on se sent valorisé, on y arrive en fait. Voilà. C'est toujours la peur de l'échec qui empêche les gens d'avancer finalement. Et quand on n'a plus peur de l'échec, on y va. Et puis finalement, des fois on échoue et puis des fois on réussit. Et quand on réussit, on est tellement content qu'on veut réussir d'autres choses. Et donc on se lance dans d'autres projets. C'est comme ça que j'en suis aujourd'hui avec autant de projets en cours.
Sacré projet, je reste toujours assez impressionné par tout ce que tu as fait. Si je vois que tu es passé par des échecs, quelle a été pour toi la méthode, comment dire, mentalement, comment tu t'en es sorti de cet échec?
Alors, des échecs, il y en a plein, en fait. Alors, c'est sûr que la première structure que j'ai créée, ça a été un échec. Et quand je l'ai fermée, j'étais complètement démotivée. Je disais que j'étais nulle, que j'y arriverais jamais, que c'était pas fait pour moi. Alors que j'avais tellement, tellement rêvé de cette entreprise, j'avais tellement fantasmé la réussite que vraiment, ça a été horrible, quoi. Et puis, mon oncle, qui était, lui, entrepreneur, en fait, m'a dit, écoute Anne-Marie, arrête de voir ça comme un échec, valorise-le, c'est plutôt chouette ce que tu as fait, tu as créé une boîte et tu as appris plein de choses, et valorise-le. Et là, je dis, mais n'importe quoi, j'ai rien appris. Et finalement, en fait, j'ai mis dans mon CV, et je me suis dit que oui, c'était pas mal, j'ai créé un site internet, ce que je ne savais pas faire, j'ai rédigé, je me suis remise au français, en fait, à la grammaire, parce que du coup, je devais apprendre des tas de choses et rédiger des courriers déjà à l'époque, même pour ma structure de conciergerie d'entreprise. Et du coup, finalement, petit à petit, ça m'a redonné du courage. Et je me suis dit que si... en fait, j'ai également lu beaucoup d'articles sur des entrepreneurs qui avaient échoué avant de réussir. Et tous disaient qu'en fait, pour une réussite, il fallait d'abord échouer. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis relancée après comme écrivain public, qui a finalement été une réussite aussi. J'ai arrêté, non pas par manque d'argent, mais parce que je ne voulais plus faire ça. J'étais déçue par les gens, en fait, et je voulais travailler non plus avec les particuliers, mais plutôt avec les professionnels. Donc, je me suis un peu transformée. Finalement, l'échec, c'est un peu voir le verre à moitié plein, à moitié vide. L'échec ou la réussite, c'est finalement la même chose, sauf qu'on le voit avec un prisme différent, en fait, pour moi, en tout cas.
Merci pour ce détail qui a toute son importance. Voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est la même chose.
Tout à fait. Il y a toujours la même quantité d'eau, en fait, dans le verre. Mais du coup, on le voit différemment en fonction de son état d'esprit, de son prisme. Finalement, un échec ou une réussite, je crois que c'est la même chose. On peut transformer ses échecs en réussite. Après, il y a eu d'autres projets sur lesquels on pourrait dire que j'ai échoué. En réalité, non, parce que j'ai appris à faire des choses que j'avais jamais faites auparavant, en fait, tout simplement.
Est-ce que tu as utilisé un rituel ou une méthode pour passer ce cap du changement?
Alors, en fait, c'est surtout une réflexion sur soi. Voilà. C'est pas vraiment un rituel, c'est plutôt se demander comment on peut voir les choses positives. Alors, j'ai fait des listes, si, alors, mais je ne le fais pas tout le temps. C'est vrai que j'ai fait des listes. Ça m'est déjà arrivé quand vraiment j'étais au fond du trou de faire des listes en me disant qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Et finalement, je me rends compte que ce qui est bien, la liste est quand même assez longue, en fait, en réalité. Donc voilà, à part ça, je n'ai pas vraiment de rituel, à part reprendre confiance en soi et se dire non, finalement, non, non, c'est bien, il y a des choses bien, et aller gratter des fois pour chercher ce qui est bien, parce qu'on ne le voit pas, on le cache. Donc, on ne le voit pas toujours. Donc, il faut aller vraiment se forcer, en fait, à aller chercher ce qu'on a caché et qui était bien.
En fait, ce que j'entends surtout, c'est ton optimisme qui t'a permis d'aller de l'avant.
C'est plutôt, tout à fait, c'est plutôt ça. Je suis quelqu'un d'assez optimiste, en effet, et d'assez positif. Et c'est parce que je me dis tout le temps que les choses iront mieux demain que j'avance, en fait. Et c'est ce qui me donne envie d'avancer d'ailleurs, hein, des échecs même dans la vie personnelle, on en a tous. Et c'est parce qu'on se dit, bah, ça ira mieux demain, enfin, c'est qu'on a envie de continuer finalement. Donc dans le milieu entrepreneurial, c'est pareil. En fait, c'est se dire que demain, on aura des choses positives et du coup, voilà, on reste optimiste. Puis aussi parce qu'il y a des gens qui sont avec vous. Quand vous créez une boîte, que vous êtes tout seul, vous avez l'impression d'être tout seul. Mais en fait, vous avez des partenaires. Vous avez la banque qui peut vous accompagner. Vous avez des associations. Vous avez votre conjoint qui vous accompagne. Vous avez des enfants éventuellement qui sont aussi en demande. Donc, en fait, il faut trouver les choses positives pour eux parce que eux, ils ont aussi envie de voir le positif de tout ça. Donc, finalement, on n'est jamais vraiment seul dans un projet, même quand on se sent seul. Et les autres sont en attente de vous, comme vous-même, vous pouvez être en attente des autres pour d'autres choses, en fait.
Donc, tu conseilles de vraiment bien t'entourer.
D'être bien entouré, de se faire confiance, bien sûr. Et disons qu'il faut que les gens vous apportent aussi la confiance. Parce que ça, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça d'ailleurs hein, que là, on a lancé l'association de l'APEF pour l'entrepreneuriat féminin, parce qu'on s'est rendu compte que les femmes étaient souvent démotivées. Tu vas pas y arriver, comment tu vas faire avec tes enfants, ou comment tu vas faire quand tu auras des enfants, et vous ne pourrez jamais vivre qu'avec un seul salaire, je sais pas, ton mari déménage souvent, tu pourras jamais t'installer, enfin voilà. Et du coup, en fait, c'est très démotivant pour les gens. Donc du coup, il faut que les femmes, mais aussi les hommes, hein, arrivent à se motiver malgré ça, et à trouver des gens qui finalement vont vous accompagner malgré tout. Voilà. Moi, j'ai quitté un CDI. J'étais toute seule à l'époque, donc avec ma famille, j'ai quitté un CDI pour me lancer dans une entreprise. C'est quand même, les gens, il y en a, enfin, tout le monde m'a dit de ne pas le faire, quoi. Personne, enfin, il y a, je crois, deux personnes dans mon entourage qui m'ont dit oui, vas-y. Donc voilà. Les autres m'ont dit non, c'est dangereux, n'y va pas. N'y va pas. En fait, il faut pas toujours écouter les autres, il faut plutôt se raccrocher à la petite personne, la petite lumière qui vous dit, mais si, si, vas-y, moi je te fais confiance, je sais que tu vas y arriver, donc vas-y.
D'après toi, pourquoi tout le monde a essayé de...
De ne pas y aller, peut-être.
Oui.
Ouais. Alors, parce qu'ils ont peur. En fait, les gens, ils vous aiment, donc les gens, ils ont peur pour vous. Ils ont peur d'un échec parce que quand dans votre entourage, il y a pas énormément d'entrepreneurs. Les entrepreneurs, en fait, c'est eux qui m'ont dit, ouais, vas-y, vas-y, parce que tu vas y arriver. C'est ceux qui n'ont pas entrepris qui m'ont dit, oh là là, non, attention, tu as un CDI, tu as un enfant, comment tu vas faire? Et finalement, non, on étudie, en fait, clairement, aujourd'hui, ça n'existe pas des gens qui meurent dans la rue en France. C'est pas vrai. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans des pays, on n'est pas au Mexique. En fait, les gens s'en sortent. Alors des fois c'est difficile, des fois il faut compter sur les autres, sur la famille, sur les amis, mais on y arrive. Voilà. Et les gens qui vous disent attention, attention, tu vas n'y va pas, c'est simplement parce ils ont peur bah, de vous retrouver dehors, de vous retrouver à travailler dans de la restauration rapide. Enfin voilà. Mais moi ça me faisait pas peur ça en fait, parce que je savais que si je pouvais plus payer mon crédit, j'avais des amis qui pouvaient m'héberger. Je savais que je pouvais aller travailler. Bah, même comme n'importe quel métier, quoi, que je pouvais faire n'importe quoi pour gagner un peu d'argent. Donc, je ne craignais pas ça. Ce que eux craignaient pour moi, finalement. Donc, c'était pas par méchanceté qu'ils me disaient de ne pas y aller. C'était vraiment par crainte.
Donc, c'est vraiment des entrepreneurs qui t'ont motivé à aller de l'avant parce que pour eux, tout est possible.
Exactement. Parce qu'eux ont réussi, alors du coup, ils se disent beaucoup plus facilement que la réussite est possible. Quelqu'un qui n'a pas entrepris, c'est une sorte de fantasme, l'entreprise. Donc, du coup, c'est plus difficile pour lui d'imaginer une réussite. Pour lui, pour entreprendre, il faut avoir fait des études supérieures, il faut être très bon dans un domaine, il faut avoir une idée originale. Les gens ont cette impression que pour réussir, il faut une idée originale, ce qui est complètement faux en réalité. Et donc, du coup, forcément, ils vont vous dire non, non, mais n'y va pas parce que quand même, tu risques d'être malheureuse si ça marche pas. Alors que les entrepreneurs, eux, ben non. En fait, c'est tout à fait le verre à moitié vide, à moitié plein. Les entrepreneurs, eux, ils voient la même quantité d'eau que les non-entrepreneurs, sauf que les entrepreneurs vont dire ben non, mais du coup, il y a de l'eau, donc c'est que c'est bon. Alors que les non-entrepreneurs, ceux qui ne le sont pas, vont plutôt me dire ben non, il y a un espace sans eau, donc c'est que tu risques d'échouer, quoi. Voilà. C'est toujours une conception, la conception de l'entreprise qui diffère.
Pour parler de verre à moitié plein, parlons de tes succès. Quel a été ton ou tes plusieurs succès dans la vie?
Alors, il y en a eu beaucoup en fait. Déjà, la première chose, c'est que moi, je suis autodidacte. J'ai pas fait d'études supérieures, j'avais pas envie. En fait, je me suis retrouvée à l'université parce qu'il fallait que j'y aille et du coup, j'y suis allée et en même temps, je travaillais dans un centre d'appel. Et en fait, je m'éclatais à être indépendante. Je trouvais ça génial. Alors, je travaillais le soir, je travaillais le week-end, mais j'y allais avec mes copains. Enfin, voilà, j'apprenais un métier. Je trouvais ça super. Et du coup, le jour où j'ai décidé d'arrêter mes études, je me suis fait la promesse d'arrêter mes études à la condition seulement d'arriver à être cadre. Donc, tu vois, finalement, ça se raccroche à pas grand-chose. Et du coup, je me suis fait cette promesse. Et puis j'ai évolué petit à petit en fait. Donc j'ai été intégrée en CDI dans ce centre d'appel et peu à peu j'ai gravi les échelons dans le centre d'appel jusqu'à ce que je puisse plus monter. À un moment donné, on m'a dit non, Anne-Marie, tu peux plus monter. T'as eu trop de marches. Donc là, on arrête. On verra d'ici 2 ans, 3 ans, ce qui se passera. Sauf que quand on a une petite vingtaine d'années, j'avais quoi, 23, 24, 25 ans, je sais même plus. Je me suis dit, bon, non, non, moi, je me suis promis d'être cadre. Si je suis pas cadre, ma promesse, je la tiendrai pas. Donc, je pars. Du coup, j'ai quitté en fait ce travail et puis j'ai trouvé un autre boulot en fait de cadre finalement sur Paris. Alors avant, il y avait beaucoup plus de boulot, c'était plus facile hein, peut-être. En tout cas, j'ai été cadre et du coup, c'est ce qui m'a permis de réussir. Ma première réussite, elle est là finalement. C'est-à-dire, j'ai réussi à aller jusqu'au bout de ma promesse. Voilà. Comment? Parce que ben, j'ai pas eu peur encore une fois en fait. Hein. J'ai pas eu peur de demander d'évoluer. J'ai pas eu peur de quitter mon CDI pour un autre travail. Complètement différent de cadre, en fait des choses que je n'avais jamais faites, hein, mais je me suis vendue en me disant que je pouvais les faire. Voilà, et là ça a marché. Donc voilà, j'ai eu plein d'échecs en fait, mais je vais même pas en parler de tous les entretiens que j'ai eus qui n'ont pas fonctionné parce qu'en fait on s'en fiche. En réalité, ce qui compte c'est celui qui a marché. Et donc du coup voilà, et finalement ça a été mon premier succès et en fait j'en suis très fière parce qu'avec du recul je me rends compte que j'ai osé faire des choses. C'est le début où j'ai osé faire des choses et finalement il y a eu des réussites. Voilà, oser, bah des fois, ça permet d'arriver à faire des trucs sympas.
J'adore ton histoire où tout part d'une promesse, avec une envie très forte de finir cadre. Et tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. C'est un très, très beau parcours.
Merci Nicolas.
Et quels sont tes futurs projets?
Alors, j'en ai toujours des milliards. J'ai envie d'écrire un roman. Que j'ai commencé d'ailleurs, j'ai profité du confinement et j'ai eu une semaine où j'ai eu enfin beaucoup moins d'activité, donc j'ai pu travailler dessus. Puis finalement l'activité est revenue, donc du coup j'ai dû m'arrêter. Mais bon, ça fait des années que j'ai ça en tête, donc je sais que je continuerai. Cette année, je me suis inscrite à des cours d'astrophysique parce que ça me passionne. Alors j'y connais pas grand-chose, mais j'apprends. Donc voilà, ça c'est mes projets actuels. Et puis toujours, voilà, l'entreprise, hein, la société de formation, l'organisme de formation, il est tout neuf, donc on a plein de choses à faire, plein de formations à lancer. Donc voilà, des envies de levée de fonds, enfin toujours énormément de projets. Après, je vais mener certains jusqu'au bout, d'autres pas, mais voilà, au moins j'en ai et c'est ce qui me fait vibrer en fait. J'aime ça, voilà, avoir des projets et j'en ai plein.
Super. Est-ce que tu te rappelles de ton adolescence?
Oui, un petit peu.
Alors, j'aimerais que tu reviennes à tes 14 ans et que tu te
Ouais.
rappelles de cette jeune jolie fille, cette jolie
Ouais.
Anne-Marie qui débute dans la vie. Tu la rencontres. Quel serait ton conseil pour avancer dans la vie?
Eh bien, en effet, j'ai été confrontée à ça il n'y a pas longtemps où j'ai accompagné j'étais marraine d'une petite jeune aussi de cet âge-là environ. En fait, le conseil que je lui ai donné, que je me donnerais si je me revoyais, c'était de me faire confiance, en fait. C'est vraiment la confiance en soi, je pense que c'est la clé de tout, la clé du succès en tout cas.
D'accord. Se faire confiance.
Ouais.
Anne-Marie, est-ce que tu as autre chose à rajouter?
Bah écoute, non, je pense que j'ai dit en effet des choses qui étaient importantes et du coup, bah, je vais juste finir en effet sur la confiance que l'on se porte. Parce que plus vous vous faites confiance et finalement, plus les gens vont vous faire confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez confiance dans vos projets, les gens sauront que vous les mènerez, que vous arriverez en fait au bout de ces projets. Voilà. Donc finalement, c'est pour ça que je te disais que pour moi, la confiance était vraiment la clé de tout. Si on se dit qu'on va y arriver, on va se donner tous les moyens pour y arriver, parce que ça ne veut pas dire que ce n'est pas la méthode Coué, on se dit je vais y arriver, je vais y arriver, on y arrive. Non, non, c'est que quand vous dites je vais y arriver, on se donne les moyens d'y arriver, ça veut dire travailler. Alors, on ne l'a pas dit, mais travailler plus, hein, clairement, mes journées de travail ne s'arrêtent pas à 18 heures, elles continuent après, elles durent parfois le week-end, même très souvent le week-end, j'y suis. Et pendant les vacances aussi. Donc du coup, ça veut dire beaucoup de travail, mais derrière, c'est, enfin pour moi, c'est voilà des réussites qui sont très agréables. En tout cas, réussir aussi à équilibrer vie de famille et vie professionnelle, ça c'est quand même très important. Et voilà, après c'est beaucoup de réussites et beaucoup de bénéfices en fait et voilà la gratitude finalement également.
Très bien. Pour faire un retour de tout ce que tu as dit, tu nous as parlé d'un succès collectif dans l'entrepreneuriat, que pour avoir du succès, il faut absolument passer par des échecs. Ces échecs qui vont pouvoir, par la suite te donner de la valeur. Tu nous avais parlé aussi de ta méthode de liste des bonnes choses et des mauvaises choses pour faire le point. Et surtout ton optimisme et le fait de te faire confiance qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Et je voudrais te remercier, Anne-Marie, pour ton retour qui est vraiment enviable, qui est vraiment très beau. Maintenant, je vais, alors, chers auditeurs et chères auditrices, je vais vous faire la promotion de l'excellent livre de Anne-Marie Richer, 7 jours pour déployer votre activité sur le réseau social. Alors, ce livre va vous donner la méthode ou des méthodes pour savoir utiliser les réseaux sociaux selon vos besoins. Alors, merci Anne-Marie.
Merci à toi Nicolas et merci à tous tes auditeurs pour cet entretien qui est très très agréable. C'est très chouette de parler en tout cas comme ça des réussites et surtout de l'origine en fait et puis de la peur des échecs puisque je sais que les gens ont souvent peur des échecs et j'espère que ça changera et qu'ils oseront y arriver. Voilà, se lancer en tout cas pour y arriver.
Merci Anne-Marie. Je te dis au plaisir de se revoir.
Avec grand plaisir, Nicolas, tout
Eh
à
bien,
fait.
ça fait grand plaisir aussi. Merci Anne-Marie. Quand je vois tout ce que peut faire Anne-Marie, cela me rend optimiste pour vous, cher leader. Devenir optimiste est difficile, surtout au début. Nous allons nous amuser à travers ce petit exercice. Prenez une respiration. Autour de vous, cherchez tout ce qui est rouge. Vous avez 10 secondes pour mémoriser les objets. Top! 10 secondes. Visualisez tout ce qui est rouge. Cherchez du rouge. Regardez autour de vous du rouge. Mémorisez-le. Regardez du rouge, cherchez à droite, à gauche. C'est bon? Ça y est. Maintenant, fermez les yeux. Et maintenant, donnez-moi tous les objets que vous avez vus et qui sont verts. Allez-y. Donnez-moi des objets qui sont verts. Impossible, me direz-vous. Vous avez dirigé votre attention sur une seule chose et vous avez du mal à voir le reste qui prouve votre intelligence à rester centrée sur une idée. Vous savez que j'adore les exercices simples et efficaces et celui-là, c'est un bijou de simplicité. Passons à l'exercice suivant. Prenez un cahier. Tous les soirs, notez 3 choses positives qui vous ont donné satisfaction et du bonheur. Et ben c'est tout. Martin Seligman, psychologue positive, a testé cette méthode sur des personnes déprimées et les résultats sont incroyables. Au bout de 2 semaines, 92% des personnes se sentaient mieux. Pour ma part, au bout d'une semaine, je me suis senti de plus en plus chanceux et plein de gratitude d'avoir tout ce que j'ai au quotidien et de voir tous ces moments positifs qui m'ont vraiment, mais vraiment donné de la gratitude en fin de semaine. Je suis vraiment chanceux et ça m'a rendu plus optimiste. Merci à tous de tout nous avoir suivis. Merci à Anne-Marie pour son excellente interview. Je rappelle le titre de son livre, 7 jours pour déployer votre activité sur le réseau social, de Anne-Marie Richier. Inspirez-vous de ce proverbe, le pessimiste se plaint du vent. L'optimiste attend que le vent tourne et le leader ajuste les voiles. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.